Dans l'émission de ce soir, on revient sur la première moitié ou presque de la saison de la LPHF et on revient aussi un peu sur les statistiques étincelantes du Canadien de Montréal et si on pense que c'est une lancée qui peut se poursuivre ou si c'est juste un flou ou si c'est juste quelque chose d'éphémère. Bon épisode. Bonsoir, bienvenue à l'épisode 12 de la saison 3 de Dans le Mille. Je suis en compagnie de Renaud. Comment ça va, Renaud?
Ça va bien, puis toi?
Ça va bien. Excitant épisode. Je trouve que c'est quand on fait des revues de saison comme ça, où on discute de sujets un peu plus global, c'est toujours le fun de trouver des petits sujets intra de grosses discussions. Juste avant de lancer dans les sponsors, on voulait lancer une question qu'on va répondre plus tard dans l'émission, mais je te laisse la poser aux auditeurs.
Ben c'est ça, écoute, comme je l'ai dit dans l'intro, là, nous, ce soir, ce qu'on voudrait savoir, ce serait, selon vous, est-ce que les Canadiens vont continuer dans leur lancée? T'sais, on le sait que dans les dernières semaines, c'est la meilleure équipe dans la LNH. Bon, quand on dit continuer à lancer, ça ne veut pas nécessairement dire rester l'équipe numéro 1 dans toute la ligue, mais est-ce que les Canadiens vont continuer à gagner beaucoup de matchs, à rester dans le mix pour les séries? Puis, t'sais, est-ce qu'ils vont faire les séries? Donc, ça serait la question qui est lancée à vous. Puis, on va vous donner notre réponse après notre partie, notre sujet principal qui est la LPHF. Mais je vais te laisser lancer nos premiers sponsors pour commencer la soirée.
Ouais, bon, donc, comme d'habitude, Elite Prospect, donc avec notre code DLM30, vous avez 30% de rabais sur le package premium, là, donc, ce qui vous donne accès à plus d'informations sur les joueurs, mettons principalement les détails par match, donc les statistiques par match des joueurs, et bien plus, là, aussi accès à des articles de haute qualité qui sont permis juste aux membres. Donc, 30%, on s'entend, c'est vraiment pas rien. Prenez ce discount-là, ce rabais-là, si vous hésitez à prendre le premium.
Ouais, c'est vraiment pas rien, surtout pour tout ce qui est offert. Là. AP Ringside, des bons articles tous les jours.
Ah
Et
ouais.
notre deuxième partenaire, perfoelite.com, perfoelite.quoi, c'est quoi, pardon? C'est une équipe de coachs professionnels, donc qui ont de l'expérience avec des joueurs amateurs et des joueurs professionnels pour tout ce qui est entraînement mental, physique, sur glace, hors glace, tout seul ou en équipe. Tous les mots que vous voulez, là, ils font. Perfoelite.com, la meilleure équipe de coachs dans le marché ou une des meilleures.
Une des meilleures. Donc, pour se lancer direct dans la LPHF, bon, on regarde le classement, c'est sûr que ça fait du bien pour Montréal, mais on va revenir en premier lieu sur un gros échange, parce que c'est rare là, à date de voir des échanges dans la LPHF. On s'entend, c'est une jeune ligue, la plupart des équipes ont un roster, un alignement qui est pas mal défini, donc ils n'ont pas de joueurs comme... Dans la LNH, des joueurs en AHL ou une abondance de joueurs, beaucoup de waivers et tout. Donc, les échanges sont la plupart du temps pas mal un pour un ou deux pour deux, là. Et c'est ça qui est arrivé entre les Sceptres de Toronto et la Charge d'Ottawa. Et ben là, je vais commencer du côté de Toronto, puisque c'est la dernière équipe au classement. Et bon, on va commencer avec la défenseur de 29 ans, la défenseuse de 29 ans, Savannah Harmon, qui était un choix de cinquième tour en 2023, donc dans le draft de début de ligue de Toronto, qui est une défenseuse de type plus puck moving, donc de mobilité, peut-être plus axée aussi sur le jeu de transition, créer de l'offensive, bouger la rondelle. Et en compagnie de Harmon, il y avait aussi Elise Camara qui s'en venait à Toronto, donc une attaquante de 30 ans qui amène plus un côté défensif de grit, de middle six, donc de deuxième, troisième trio, mais c'est quand même un peu une carte blanche là. C'est une joueuse qui peut se déplacer un peu partout dans l'alignement, là. C'est une joueuse qui, si tu as besoin sur le quatrième trio, le premier trio, elle peut remplacer. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment plus du côté défenseur, défensif, son style de jeu. Donc, elle a 0 point cette saison. Et Harmon aussi a 0 point cette saison. Et là, je vais juste le dire, là, mais En gros, Savannah Harmon vient remplacer la joueuse qui a été échangée à Ottawa pour venir un peu aider Renata Fast à créer de l'offensive et créer de la mobilité. Son temps de jeu à Savannah Harmon a augmenté depuis qu'elle est avec Toronto.
Ouais, ben c'est ça. Écoutez, c'est un échange intéressant. Je pense pour le moment, je dirais que c'est le plus gros de l'histoire de la Ligue. Dans le sens, on a vraiment deux noms énormes qui ont changé. Quand on regarde les stats, peut-être que justement, ça saute pas aux yeux comme étant deux joueurs énormes. Mais tu sais, Savannah Harmon, la saison passée, moi, ça a été une de mes défenseuses préférées à jouer à chaque fois que Ottawa venait jouer puis à Montréal. Puis je regardais, elle était vraiment incroyable à voir. Tellement de mobilité, tellement à l'aise sur la ligne bleue. Donc, tu sais, c'est quand même une grosse pièce qui a bougé, même si pour le moment, en 5 matchs, aucun point, ça laisserait pas paraître ça. Ça reste, tu sais, on peut pas effacer son passé, là. Ça reste une joueuse de top, top, top niveau. Et puis moi, écoutez, je vais vous parler un petit peu plus de Toronto. Donc, comme je le dis, ils sont derniers de la ligue. Comme la saison dernière, donc la saison dernière, au début de la saison, c'était vraiment pourri. C'était une des moins bonnes équipes. Puis finalement, à la fin de la saison, je pense que c'était dans le top 2. Bref, ils ont vraiment réussi à changer complètement leur saison de bord, puis arriver dans les séries comme un powerhouse pour finalement se faire éliminer rapidement. Donc écoutez, la fin de saison ressemble au début de saison. Et puis là, on recommence la saison d'après, et puis c'est encore pas très très bon. C'est qui les highlights de l'équipe? On a Renata Fast, comme tu as dit, qui elle a pas de misère pour le moment à amener de l'offense. Elle a 8 points en 10 matchs. Sarah Nurse avec 7 points. C'est correct, mais c'est quand on parle des autres joueurs clés. Donc, tu sais, je pense à Emma Maltais et à Turnbull qui ont fait partie des équipes étoiles offensives de l'année dernière. Puis Emma Maltais, pour le moment, est à 3 points. Turnbull est à 3 points. Bon, c'est sûr que ces joueuses-là, ils amènent de l'intensité. Ils amènent pas juste des points. Mais pour avoir le package complet, c'est pas des joueuses de depth en gros, là. T'sais, Emma Maltais, c'est pas une joueuse de bottom six, c'est une joueuse qui est là pour jouer sur ton top 6 parce qu'en plus de l'intensité puis de la physicalité, elle amène des points. Puis pour le moment, cette saison, la partie points marche pas. Il avait aussi fait une belle acquisition au repêchage en allant repêcher Izzy Daniel, qui était une des meilleures scorers en NCAA la saison dernière. Elle aussi, pour le moment, dans sa saison recrue, se contente de 4 points, ce qui comparait à d'autres joueuses qui ont été pris au repêchage. Tu sais, c'est pas l'impact qui était espéré. On a aussi Nathalie Spooner qui n'a pas joué un seul match cette saison. Ça fait mal quand elle va
C'est
revenir.
rien à dire.
OK, c'est ça.
C'est ça, c'est un gros morceau, là. Nathalie Spooner, c'était une des trois qui avait été signée avant le repêchage. Donc, on s'entend, c'est comme si on avait une de Stacy, Desbiens ou Poulin qui n'était pas présente, là, depuis le début de la saison.
Exactement. Puis écoutez, la dernière statistique, parce qu'à la fin de la journée, une équipe qui va pas bien, c'est facile à dire. Il faut que les joueuses jouent mieux, il faut que les joueuses performent mieux, il faut que les joueuses qui marchaient l'année dernière marchent mieux. Puis pour ce moment, ce n'est pas le cas. Mais la dernière statistique clé que je voulais vous donner, c'est que l'année dernière, il y avait Campbell Soupe, comme il l'appelle, qui avait été vraiment une pièce importante de son équipe avec un save percentage de 9,27. Donc vraiment une gardienne sur qui il pouvait compter. Puis cette saison, c'est vraiment horrible. Elle commence la saison avec 8,91. Donc, tu sais, on dirait qu'en gros, là, il n'y a pas nulle part dans l'équipe où ils sont en confiance, où ils connaissent vraiment ce qu'il faut qu'ils fassent. Fait que, tu sais, peut-être que ça va faire comme la saison dernière, puis s'améliorer un peu. Mais, tu sais, on va en parler quand on va parler des équipes plus hautes dans le classement. Est-ce que cette saison, tourner de bord, puis commencer à bien jouer à la mi-saison, ça va être assez pour faire une place en série? Je suis pas certain, mais oui, en ce moment, c'est pas mal ça, la picture de Toronto. C'est un petit peu désolant de regarder les statistiques de certaines de ces joueuses-là quand on sait ce qu'ils peuvent amener vraiment à une équipe, là.
C'est ça. Moi, je pense juste pour Toronto, pour finir sur cette équipe-là. Je pense que tant une analyse pour nous, puis là, j'ai pas été capable de trouver c'est quoi la date de retour, parce qu'au début de la saison, c'était pas supposé être tant long, puis là, on dirait que c'est plus long que prévu.
Ouais, ça serait supposé être bientôt de ce que j'avais vu. Elle avait recommencé à patiner, mais je peux pas confirmer. On est vraiment loin d'être insider à ce niveau-là.
Ouais, c'est ça. Fait que regardez. Fait que bon, on va attendre Nathalie Spooner et son retour. C'est sûr que, comme tu l'as dit, tu sais, oui, il y avait Izzy Daniel. Il y a aussi, si je me trompe pas, là, leur première ronde, si je regarde ici, c'est Julia Gosling, qui, non plus, c'est ça, fait pas rien d'étincelant, là. Je veux dire, 2 points en 10 matchs pour un sixième choix. On s'entend que c'était le premier repêchage, et donc, des fois, c'est peut-être trouver un peu. Quand on regarde d'autres équipes qui ont repêché et que ces joueuses-là ont un impact direct dans la performance de l'équipe, Puis juste, mettons, là, on va tourner à Ottawa, mais je veux dire, Daniel Cerdakny, le deuxième choix au total, elle est vraiment en train de prouver qu'elle était un choix de très haut niveau, puis même pas juste en termes de statistiques, parce qu'elle a 5 points en 11 matchs, mais c'est par son apport physique. Et c'est un peu qu'est-ce que Ottawa recherchait aussi dans le... Est-ce que tu l'as dit? Et là, je pense que j'ai
Un
bugué.
petit peu, ouais.
Ouais, c'est ça. Ben, alors, ce que je voulais dire, c'est que Cerdakny, c'était une joueuse qui, oui, a 5 points en 11 matchs, mais c'était une joueuse qui amenait de l'intensité et amenait de la physicalité, qui est quelque chose que, de ce que je lis dans les articles, c'est quelque chose que les directrices et les directeurs généraux ne s'attendaient peut-être pas à ce que ça devienne autant physique, et donc ils doivent s'adapter pour
Ouais.
être à la hauteur de la ligue. Et donc, Ottawa est allé chercher la future Hall of Famer, Jocelyn Larocque, donc 36 ans, choix de deuxième tour en 2023 de Toronto. C'est une défenseuse steady, donc physique, défense, fermer la ligne bleue, fermer la zone, l'enclave, une leader, une des plus médaillées du côté canadienne. Et en partie, pourquoi Jocelyn Larocque est intéressant pour Ottawa, ben c'est pour venir aider Ashton Bell et Markowski, donc deux
Ouais.
jeunes défenseuses. Ashton Bell a 25 ans et donc un deuxième choix en 2023 de Ottawa cette fois-ci. Et Markowski, quatrième ronde en 2024 cette année. Donc une jeune défenseuse qui embarque, quand je l'ai dit, un bon repêchage d'Ottawa qui a un impact direct dans l'équipe. Donc c'est ça, vraiment, Jocelyn Larocque, c'était une stay-at-home. C'était la partner, elle, de Renata. Et ça a un impact sur Renata parce que, en gros, depuis que Renata n'est plus avec Larocque, elle a 2 points en 4 matchs alors qu'elle en avait 6 en 6 matchs avec Larocque. Donc, est-ce que Toronto est venu un peu vouloir trop en faire et a brûlé leur défenseuse étoile? On verra. Mais sinon, le temps de glace, donc l'importance que Larocque a, c'est vraiment le même. Donc, c'est une première paire. Donc, c'est dans les 5 matchs que Larocque a joué avec Ottawa, elle a 4 matchs de 22 minutes et plus.
Ouais.
Sinon, donc là, quand je l'ai dit tantôt, c'est des échanges un peu un pour un. Donc, une défenseuse de chaque bord, un attaquant de chaque bord. Donc, on a ici pour Ottawa Victoria Back, une attaquante de 28 ans, qui était sur un rôle plus de bottom six, donc troisième, quatrième trio. Septième ronde en 2023 de Toronto. Et en gros, qu'est-ce que la directrice générale d'Ottawa disait, c'est que il croyait que Victoria Back n'avait pas eu toutes les opportunités pour développer son potentiel. On s'entend qu'il a 28 ans, mais c'est quand même les débuts dans une ligue professionnelle, donc le potentiel d'une joueuse n'est pas complètement exploité selon eux. Et ils ont à date, ils ont raison. En tout cas, là, Victoria Back a 3 points en 5 matchs avec Ottawa. Elle avait seulement un but en 6 matchs avec Toronto. Et elle a un temps de glace beaucoup plus steady, donc autour de 15 minutes average, alors que à Toronto, elle avait des matchs de 4 minutes, d'autres de 9 minutes, puis certains de 19 minutes. Donc on s'attend, ça change beaucoup. Et ben là, juste, ça tombait bien, les deux équipes étaient au quatrième rang à égalité. Depuis l'échange, Ottawa est 2 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Ils sont rendus encore quatrième. Et Toronto, eux, ben, ils ont 1 victoire, 2 défaites et 1 en prolongation. Ils sont rendus sixième. Donc, moi, juste pour le bet sur Victoria Back, je dois donner le edge à Ottawa et Jocelyn Larocque. Si elle sera en série, ça peut vraiment être une pièce très importante.
Bon, là, c'est ça, tu as mis un peu le gros questionnement pour le trade pour Ottawa. C'est indéniable quand on parle des performances des joueurs puis l'impact qu'ils ont eu en ce moment. Pour le moment, c'est vraiment le côté d'Ottawa qui gagne ce trade vraiment dans le court terme, même si justement, c'est important quand même de mentionner que Larocque, elle a 36 ans, donc tu sais, Armon, elle est dans le début trentaine, donc elle devrait jouer un petit peu plus longtemps en théorie. Après, on ne sait jamais, hein, ça reste du hockey. Mais là, c'est ça, Ottawa, quand ils vont faire ce trade-là en allant chercher une défenseuse super solide mais plus âgée, c'est un peu comme s'ils disaient. On est prêt à faire un push pour le titre. On pense qu'on a une équipe à aller gagner. Donc, on va faire vraiment notre possible pour gagner cette saison ou la saison prochaine. Là, ça m'étonnerait que Larocque se retire tout de suite. Mais tu sais, ça ne devrait pas tarder non plus. Là, maintenant, un peu Le problème que moi j'ai avec ça, c'est quand tu regardes le reste de leur équipe, oui, les pièces du trade marchent bien. Oui, dans les buts, ils ont Marshall Meyer qui est incroyable avec 9,34 de pourcentage d'arrêt cette saison. Sauf que reste que en ce moment, leur meilleure pointeuse, c'est Vasinova, l'ancienne de Montréal, qu'on leur avait échangée. Et puis leur meilleure pointeuse, donc celle qui est supposée justement, parce que tu sais, Back, on l'a dit, elle performe super bien, mais c'est pas elle qui va avoir toute l'offense sur son dos. Donc Vasinova, celle qui est supposée justement être la meneuse d'offense pour cette équipe-là, a 0 point dans leurs 5 derniers matchs. Donc, tu sais, on amène quelqu'un qui a un bon apport offensif, mais en ce moment, tu sais, est-ce qu'on avait déjà le star power pour faire ce push-là voulu? Après ça, tu sais, c'est important de mentionner quand même que quand on arrive en série éliminatoire, tout peut se passer, surtout dans une ligue comme la LPHF, où la première ronde, c'est la demi-finale déjà, c'est pas des séries de 7 matchs. Donc ça peut vraiment, tu sais, peut-être que Ottawa va arriver, va être une équipe qui grind un peu, qui va justement réussir à surprendre tout le monde. Mais c'est juste qu'en ce moment, quand je regarde les outils offensifs qu'ils ont versus ceux des autres équipes, donc on va discuter plus tard, je vois pas une équipe qui va sortir avec le championnat. Et donc, tu sais, à moins de gros ajouts en off-saison de l'année prochaine, qui vont justement aller ajouter quelques stars en attaque, aller ajouter un peu plus de production, puis là, qui justifierait l'ajout de la Roque. Je suis pas encore convaincu de la logique derrière cet échange-là, malgré le fait que c'est indéniable qu'en ce moment, la Roque et Back performent mieux que ce que Ottawa ont donné à Toronto pour cette saison, et puis que Ottawa est plus haut que Toronto dans le classement.
Ouais, ben c'est ça, je pense que t'as bien résumé, là. Je veux dire, encore une fois, c'est une ligue à 6 équipes. Il y en a quatre qui rentrent, donc le 2/3 des équipes rentrent. Puis comme je l'ai dit, là, la Roque, c'est comme la leader qui vient prendre le rôle de mentor pour les jeunes défenseurs. Puis ce que j'aime, c'est que justement, moi, je trouve que le repêchage d'Ottawa, c'est un de ceux qui est à date avec le plus de
Réussi,
succès,
ouais.
là. Bien évidemment, le premier choix overall, je veux dire, on peut pas aller contre qu'est-ce qu'elle fait dans la ligue en ce moment, mais en général, on voit l'impact du repêchage de Ottawa dans leur équipe, là, surtout les 3-4 premiers picks. Tu sais, là, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de son nom, mais Ronja Savolainen, moi, les matchs que j'avais vus à la défense, je trouvais qu'elle était quand même assez solide. Elle était plus du côté physique. Donc, clairement, Ottawa veut devenir un peu l'équipe à la Boston, là, un peu puis à la Boston, je parle les Bruins, là, un peu l'équipe qui fait mal quand tu joues contre eux. Sur ça, je pense qu'on peut passer à la 5e équipe au classement.
Ouais, à Boston, mais pas les Bruins cette
Boston.
fois.
Pas les Bruins, le Fleet.
Mais c'est.
Ben ça tombe bien. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
Ouais, juste, c'est drôle que tu dis ça parce que, tu sais, quand même, Boston, tu sais, c'est ceux qui ont éliminé Montréal dans les séries éliminatoires l'année dernière en LPHF, bien sûr, là. À Montréal, dans le côté masculin, on
Parle-moi
n'est
de
pas
ça.
proche des séries. On n'était pas proche des séries.
On
On
n'était
en
pas
revient plus
proche.
tard.
Ouais,
Mais
fais attention.
c'est ça, le Fleet. Dans le temps qui était encore LPHF Boston, c'est eux qui avaient éliminé Montréal. Puis comment ils avaient fait? Ils avaient vraiment épuisé les joueuses de Montréal avec un jeu physique, avec justement des joueuses intenses qui étaient capables de justement amener ce côté grind. Puis là, cette année, on les voit rentrer dans la ligue en ayant tout le temps cet apport-là, encore ce côté-là physique, que c'est beaucoup de joueuses qui sont, tu sais, pardonnez-moi pour la façon de dire, mais tu sais, chiantes à jouer contre. Mais c'est juste que on voit avec une ligue que justement, avec le repêchage, avec beaucoup de talents qui arrivent d'Europe, avec beaucoup d'excellents talents de NCAA, dont une dans leur équipe, qu'on mentionnera plus tard. Mais on voit une équipe qui a ajouté beaucoup de finesse, quand même beaucoup de scoring. Donc oui, ça reste physique, mais en ce moment, l'apport purement physique qui a amené Boston jusqu'en finale l'année dernière. Pour le moment, c'est pas assez, puis c'est pour ça qu'ils sont numéro 5. En ce moment, eux, encore une fois, un peu dans le même cas que Toronto, leur scoring vient vraiment juste de leurs meilleures joueuses, donc Keller en défense et puis Knight en attaque. Sinon, on a aussi, comme j'ai dit, on en reparlera plus tard, on a Anna Bilka qui était leur choix au repêchage de 2024, qui est une joueuse exceptionnelle en NCAA. Elle était exceptionnelle, puis pour le moment, c'est 7 points en 10 matchs. Donc pour le choix numéro 4 au repêchage 2024, ça reste extrêmement solide. Puis encore une fois, dans une ligue de 6 équipes où tout le monde est supposé être compétitif, la différence parfois va jouer dans les buts. Contre Montréal, l'année dernière, Frankel avait été incroyable. Elle avait volé des matchs pour Boston, justement. Puis elle avait été une des raisons pourquoi est-ce que Boston avait eu autant de facilité, là, je dis ça en guillemets parce que ça s'était rendu en prolongation. Souvent, ça a été une des la plus longue prolongation de l'histoire de la LPHF. Donc, c'est facilité, entre guillemets. Je dis juste ça parce que Montréal n'a pas gagné un match. Mais Anna Frykol avait été incroyable. Puis elle continue sur cette lancée-là avec un pourcentage d'arrêt de 9-17, même si l'équipe est en bas du classement.
Puis Boston, je veux dire, à date, c'est peut-être une des équipes les plus actives en termes de transactions, là, ou en termes de mouvements. Je veux dire, au repêchage, c'est eux qui avaient fait le premier échange de repêchage. Donc, ils étaient allés chercher, tu l'as dit, ils étaient quatrième en première ronde. Ils sont allés chercher le premier choix en deuxième ronde. Donc, ils ont repêché quatrième et septième, quitte à ne moins repêcher de joueuses dans le draft. Mais ils sont allés chercher le septième joueuse qui était Daniela Peshova. Qui, à date, bon, c'est sûr que offensivement, c'est pas incroyable, mais de ce que je regarde dans son passé dans les ligues suédoises, ça n'a jamais été une joueuse qui était basée sur l'offensive. Je veux dire, elle est moins deux, mais encore une fois, c'est une équipe qui est cinquième au classement, donc tu peux pas t'attendre à ce que la rookie soit celle qui mène la charge pour ne pas être négatif en plus et moins là. Je veux dire même Megan Kerlew, Anabilka, ils sont pas mal toutes en négatif là, puis même que une des défenseuses du top 4, Sydney Bard est moins 5 et on a Alina Muller qui est moins 6. Donc ça c'est vraiment si je me trompe pas, c'est un peu un choc là, que Muller elle soit autant pas bonne, puis je le dis de même, là, parce que je veux dire, elle avait 16 points en 24 matchs l'année passée. Alina Muller était supposée d'être une star dans cette ligue-là. Elle avait été repêchée troisième en 2023. Moi, je me rappelle que Muller, j'espérais qu'elle tombe à Montréal parce que ben, avec l'équipe de Suisse et en Europe, elle faisait vraiment ben, pas en Europe, mais je veux dire, en NCAA, puis. Au début de la saison passée, elle avait joué en Europe, là. Elle avait fait 25 matchs, 25 points, genre, en 6 matchs dans la Ligue suisse. Donc, on s'entend qu'il y avait beaucoup d'attentes. Et là, cette saison, un point en 9 matchs. Et je l'ai dit, ils sont actifs. Et aujourd'hui, alors qu'on préparait le podcast ce matin, tu as reçu une nouvelle d'un échange entre Boston et New York. Et donc, Boston reçoit l'attaquante Jill Saunier de 32 ans. Qui avait été repêché en septième ronde en 2023, alors que New York, eux, reçoivent l'attaquante Taylor Girard de 26 ans, qui a à peu près un average temps de glace de 8 minutes et 0 points, qui était un choix de 9e ronde en 2023. Donc, on s'entend, c'est vraiment pas un échange autant important que le premier qu'on a parlé. C'est juste à noter, là, Jill Saunier, donc 32 ans, qui a joué un peu avec l'équipe Canada. Taylor Girard, une Américaine. Donc, j'ai pas tant de choses à dire, là, justement. C'est comme un échange un peu de quatrième trio, là.
Ben, c'est ça, écoute, le thème, tu sais, qu'on a vraiment remarqué les deux quand on regardait les matchs, puis quand on faisait la recherche pour cet épisode-là, c'est qu'en ce moment, le trou de la lacune que beaucoup des équipes de la Ligue ont en commun, c'est que le scoring vient juste des grosses lignes. Et le bottom six a beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à aller mettre des points. Tu sais, je pense, tu sais, notamment à Toronto, parce que je quand même familier avec leurs joueurs, mais tu sais, Maggie Connors, qui l'année dernière avait quand même été, tu sais, sans être incroyable, quand même une joueuse importante dans leur bottom six cette saison, un point en 10 matchs. Il y a aussi, écoute, son nom m'échappe, mais la sœur du joueur des Red Wings,
Tu parles de Comfort?
Comfer, pardonnez-moi, Comfer justement aussi, qui avait été pas une star pour Toronto, mais une bonne joueuse de bottom six qui, pour le moment, a une production aussi limitée. Et ça, c'est un thème qui est récurrent. Donc, avec un échange comme ça, on voit un petit peu des équipes essayer de faire un effet back, peut-être un peu moins gros, mais tu sais, aller switch up un petit peu des joueuses de rôle, les essayer dans un nouveau système, puis voir si justement on peut arriver à avoir un petit peu plus de scoring de ces lignes-là en bas, qui, tu sais, justement, en gens qui regardent. Les Canadiens en ce moment, on voit à quel point est-ce que ces lignes-là sont importantes. Donc, si c'est vrai dans n'importe quel hockey, dans n'importe quelle ligue, on ne peut pas délaisser ces lignes-là. Puis il faut que tu ailles un petit peu de scoring qui vienne de ton bottom six, même si c'est normal que ça soit moins que tes meilleures lignes. Sur ce, je te laisserai nous lancer dans ce qui est, selon moi, l'équipe la plus améliorée en vue de cette saison-là, New York.
Ouais. On n'arrête pas de le dire que le repêchage de 2024, je veux dire, c'était bien pour Ottawa, pour Montréal, on en parle plus tard, mais ça va quand même bien aussi. Mais New York, avec le premier choix au repêchage, sont allés avec un peu celle qu'on s'attendait à sortir, le Sarah Filleul, qui est la seule joueuse en ce moment au-dessus d'un point par match. Donc, oui, sa coéquipière, Carpenter, a un point par match, mais Sarafili a 11 points en 10 matchs. C'est la première dans la ligue avec les points. Donc, elle est rentrée, comme on dit l'expression en anglais, le hit the ground running. Donc, elle n'a pas eu à s'adapter. La ligue doit s'adapter à elle. Et je me rappelle le match contre la Victoire. Je veux dire, c'était tout simplement une ligne beaucoup trop forte pour la ligue, on dirait, là, avec Carpenter et Jesse Aldridge. Mais même que je dois dire, c'est. Ce qui va être intéressant avec cette ligue-là, c'est que là, bon, on a juste un an de statistiques pour se baser, là, mais je veux dire, leur défenseur numéro un, Mika Zandi-Hart, 28 ans, qui l'année passée avait fait 9 points en 19 matchs, elle est déjà rendue, ou pas 9 points, elle avait fait 6, laissez-moi regarder, 3 points en 19 matchs, elle est rendue à 7 points en 10 matchs. Elle était moins 18 l'année passée, elle est plus 1 cette année. Jessie Eldridge, qui est une autre joueuse, qui est pas une joueuse sur laquelle Pascal, et là, pourquoi j'oublie son nom de famille au moment,
Daou,
Daou, Pascal Daou, l'ancien
faut que tu
directeur
penses à
général de
Rose.
Val d'Or. Je me passe à Rose la prochaine fois. Eldridge, 14 points en 24 matchs l'année passée. Et là, cette année, 9 points en 10 matchs. Je veux dire, encore une fois, je le dis, là, c'était pas une joueuse sur laquelle il était basé. Elle a été sélectionnée en troisième ronde en 2023. Donc, elle n'était pas supposée d'être sur une première ligne. Ou en tout cas, personne ne la voyait là. Donc, c'est des surprises de même qui font que cette équipe-là fonctionne. Peut-être des petites déceptions. Moi, Chloé Aurore, j'aurais aimé ça voir un peu plus d'elle offensivement cette saison. Et ben, dans les buts, je veux dire, Corinne Schroeder, elle est en train de tout dévaliser. Elle est la meilleure en victoire, égalité avec Anne-Renée Desbiens, si je ne me trompe pas. Meilleure en pourcentage d'arrêt et meilleure en moyenne de buts contre.
C'est juste qu'à la fin de la journée, comment est-ce que tu peux mettre ton cash contre une équipe qui a la meilleure gardienne de but, plus de victoires, meilleur save percentage, et que dans la même équipe, tu es la meilleure scoreur de la ligue avec la ligne qui performe le mieux de toute la ligue. Donc, tu sais, cette équipe-là ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont pour eux. Souvent, les matchs qu'ils perdent, ce sont des matchs serrés, versus quand les matchs qu'ils dominent, ce sont des matchs où, justement, quand ils gagnent, c'est par beaucoup. Donc, tu sais, on se souvient du match contre le Frost 5-0. Donc, c'est une équipe qui a tout pour être dominante. Puis, ce qui fait peur dans cette équipe-là, c'est que vraiment, on a dit, il y a eu beaucoup de mouvements, que ce soit dans le top 6 avec Sarafilié qui arrive, dans le bottom 6 avec des ajouts comme Fecteau, qui s'ajoute à Dani Landry, qui était déjà une Québécoise dans l'équipe. Donc, tu sais, on voit une équipe qui est vraiment en train d'apprendre à jouer ensemble et qui n'est pas encore à leur forme finale, tu sais, quand on compare justement avec le Frost, ouais, le Frost ou le Fleet. Les deux F, je me suis mélangé entre les deux, mais c'est vrai pour les deux. On voit des équipes qui, eux, se sont bâties un peu plus sur justement leur équipe qu'il y avait l'année dernière, pas voulu faire trop de changements. C'est sûr qu'on a des gros noms qui arrivent, mais rien de autant énorme qu'à New York, versus New York qui, eux, fait des gros, gros changements. Puis justement, ça fait que déjà là, ils performent bien, ils sont dans une position de série, mais que c'est vraiment loin d'être la forme finale. Donc, ça pourrait vraiment être l'équipe à battre quand on arrive en série. Puis tu sais, une équipe où justement l'offense est tellement épeurante que. T'sais, ils vont battre une équipe qui joue un style un peu plus safe, un peu plus basé sur la défense. Mais un truc que moi, je pense qui est certain, c'est que je pense que venu en série, ça va être l'équipe la plus excitante à regarder. Puis écoute, sur ce, ça nous amène à Minnesota, qui sont justement les champions de l'année dernière. On parlait de Sarafilié et d'à quel point elle était incroyable. Ben, Minnesota, eux, ils ont celle de l'année d'avant, donc un peu le revers de la médaille, le Tyler Heisey, qui était le premier choix numéro un de l'histoire de la Ligue, qui est incroyable. Puis eux, en numéro 2, ce qui est quand même incroyable, on sait qu'ils ont gagné l'année dernière, mais il y a eu beaucoup de problèmes à l'interne cet été, après la saison. Donc c'est l'équipe a envoyé leur directeur général 9 jours après avoir gagné le championnat. Donc ça, c'était curieux. Puis on aurait pu penser que peut-être qu'il y aurait eu des problèmes sur la glace, peut-être que c'est quelque chose que les joueurs auraient ressenti, peut-être que justement on aurait vu une équipe rentrer un peu moins forte dans cette saison à cause de ces problèmes-là, puis de l'attention médiatique qu'il y a eu sur justement les choses un peu plus négatives dans l'équipe, mais finalement pas du tout. C'est un groupe qui était déjà assez complet, on le sait parce qu'ils ont gagné la Coupe l'année dernière et qui continue sur cette base-là. Ils sont allés ajouter des bonnes joueuses au repêchage, dont tu sais, moi, celle qui me saute. qui me saute aux yeux, celle que je pense qui a eu le plus d'impact dans leur équipe, c'est Blue Tackle, qui a été choisi numéro 9 au repêchage. Donc, tu sais, c'était même pas un des choix les plus hauts, même si 9, ça reste quand même haut. Mais tu sais, un choix de deuxième ronde, 7 points en 11 matchs, ça reste, tu sais, incroyable. Surtout quand on compare justement à d'autres joueuses qui ont été pris un peu plus bas, tu sais, à Toronto, je parlais de Izzy Daniel qui, elle, tu sais, sans rien lui reprocher, là, je suis sûr que ça va venir avec le temps. Elle est en train de s'habituer à une ligue, mais tu sais, juste 4 points en 10 matchs versus quelqu'un but à cœur qui arrive dans une équipe plus compétitive et qui a déjà 7 points en 11 matchs. On a d'autres joueuses clés, mais qui étaient déjà là l'année dernière. Donc, tu sais, je pense à Claire Thompson en défense, que justement, si vous avez regardé notre premier épisode sur la LPHF qu'on a fait à Dunmill, on avait Théo Lambert, un scout de hockey féminin qui était venu, qui nous parlait de à quel point Claire Thompson pourrait ajouter à Montréal. Finalement, elle s'est retrouvée au Frost, puis ça reste une des défenseuses les plus utiles à son équipe dans la ligue. Izzy à l'attaque, je l'ai dit. Ronnie dans les buts, 9-21 de save percentage. Puis écoute, est-ce qu'on peut vraiment bet contre la gardienne qui a amener son équipe au championnat l'année
Non.
dernière. Donc, c'est bref, en gros, une équipe déjà pas mal complète, que peut-être on aurait pu penser qu'il y avait des problèmes de cohésion, mais qui finalement, rien, ça ne se ressent pas du tout sur la glace, et puis qui ajoute justement une bonne scoreuse au repêchage. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? T'sais, si on est le Frost, je pense que ça va être l'équipe à battre parce qu'ils ont un target un peu sur leur dos, une cible dans le dos à cause de justement leur premier championnat l'année dernière.
L'année passée, c'est ça, quand Théo nous avait parlé de Claire Thompson, puis on l'avait vu un peu dans les championnats internationaux. Je trouvais ça un peu. Bon, c'était sûr que je connaissais pas toutes les règles qui s'appliquaient au repêchage de 2023. Il y avait des joueuses comme Abigail Boring, qu'on va parler dans quelques instants, qui avaient le droit de passer outre et de demander de rester dans son coin pour finir ses études. Et Claire Thompson, en fait, c'est ça qu'elle a fait. Elle n'a pas joué de la saison passée. Et là, cette année, ben, c'est la numéro un en défense, en termes de points. Clairement, Minnesota a fait un bon choix avec elle au troisième au total cette année en 2024. Donc, moi, j'ai pas mal rien à rajouter sur Minnesota, là, je veux dire, c'est ça. À part qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation, on dirait pas que ça a trop comme eu un impact sur les joueuses, ou en tout cas les joueuses qui sont en ce moment dans l'équipe, parce que l'équipe va quand même bien, là, malgré qu'ils ont perdu contre la victoire. Et donc, c'est pour ça que je prendrais ce petit pont pour aller à la victoire
Prends-le,
complètement.
Jules. Prends-le, traverse l'eau.
Donc, ouais, je vais le traverser l'eau. Donc, Montréal est en premier dans la ligue avec un pourcentage de points de 6,97, ce qui est vraiment excellent. Moi, j'ai parlé de Boreen, puis je veux dire, elle avait bien joué l'année passée avec Minnesota. Elle avait fait quelques beaux buts et elle avait participé à la victoire de la Coupe. Mais cette année, il faut un peu s'admettre que c'est toute une sélection au repêchage. Je veux dire, elle est la meneuse en buts comptés dans la ligue avec 5, avec égalité de 3-4 joueuses, là, je crois bien, mais elle a fait un but qui a l'air peut-être du but de la saison. Et elle continue à être dominante. Elle a vraiment pris, tu sais, quand on dit là, que les joueurs doivent un peu forcer la main aux dirigeants pour leur donner du temps de jeu, leur donner des opportunités, bien, Abigail, c'est ça qu'elle a fait. Je veux dire, est-ce qu'on peut parler d'une saison décevante pour Poulin? Je pense pas encore. Kayla Burns et Erin Ambrose, ils pourraient apporter plus d'offensive, mais en même temps, je trouve que leur jeu overall est très bien développé. Anne-Renée Desbiens joue bien. Je pense que Hélène Chouly a moins une excellente saison que l'année passée. C'est une saison moins flamboyante, là, puis peut-être que c'était à prévoir, dans le sens que l'année passée, c'était juste comme complètement. Je veux dire, on avait un duo de gardiennes de but qui était complètement incroyable. Donc, c'est ça. Je veux dire, Montréal, la victoire, ça va bien. Ça prend peu pour que l'équipe se ramasse dernière de la ligue, là, dans le sens que une mauvaise lancée, puis quelques matchs de perdu d'affilée, ça pourrait aller très vite que dernier. Mais pour l'instant, je veux dire, ils ont l'air d'être bien coachés, ils ont l'air d'être bien ensemble. Moi, c'est sûr que j'attendais beaucoup de Lina Ljungblom, qui avait gagné la meilleure joueuse de la Ligue en Suède. Et la Ligue en Suède, là, je vais juste faire une parenthèse, la Ligue suédoise d'hockey féminine, c'est peut-être la deuxième, et en fait, c'est peut-être, mais c'est sûrement la deuxième meilleure ligue au monde. On peut mettre la NCAA, là, quasiment à égalité, là. Mais quand vous entendez parler des joueuses qui viennent de la Suède, faut pas prendre leurs statistiques, prendre qu'est-ce qu'ils font là-bas pour acquis, là. Tu sais, là, Ljungblom, c'est clairement une mauvaise adaptation, mais C'est une très bonne ligue, là. La plupart des joueuses jouent là-bas et sont heureuses. Donc, ça va être intéressant dans les prochaines années comment le développement se fait, là. Mais faut quand même regarder la SDHL comme une bonne ligue.
Ouais, puis écoute, à Montréal, on parle de repêchage depuis le début, mais là, d'aller chercher une joueuse de troisième ronde qui met plus de points que Marie-Philippe Poulin, donc Warren en a 8, Marie-Philippe Poulin en a 7. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, à la fin de la saison, d'ici la fin de la saison, Marie-Philippe Poulin, ça va débloquer, là. C'est arrivé à toutes les top joueurs, joueuses, peu importe, d'avoir un début de saison un peu plus lent. Là. Je suis sûr
Ouais,
qu'au début.
McDavid, en ce moment, ça va pas bien, hein? Depuis pour les 3 prochains matchs, ça va pas très bien.
Ouais, lui, il aura 0 point dans les 3 prochains matchs, ça, je vous le garantis. Mais. C'est ça, t'sais, mais quand même, d'aller chercher une joueuse en troisième ronde qui a plus de points que ce calibre, donc t'sais, la meilleure joueuse de hockey féminin de tous les temps, t'sais, ça reste que ça en dit beaucoup sur la sélection de la victoire. Puis t'sais, si on parle un peu de leur autre choix, O. Caleb Barnes, 5 points, donc t'sais, est-ce que c'est la star offensive qui a point par match? Pas pour le moment, mais ça reste que c'est un apport t'sais, qui est indéniable, puis l'équipe serait pas pareille sans elle. Gardiner qui a été pris en deuxième ronde, 6 points. Puis là, t'sais, tous ces noms-là que je vous donne, t'sais, c'est sûr qu'on a des noms. Comme Lindsey Bloom qui pourrait vraiment amener plus, puis pour le moment se contente d'un but en 11 matchs, ce qui est un peu décevant, mais on a d'autres noms justement comme Gardiner qui sont des joueuses qui jouent pas tu sais, sur la première ligne et qui arrivent à quand même participer à l'offense. C'est quand même c'est beaucoup très prometteur. C'est une des équipes où je pense que justement le scoring des deux dernières lignes, donc la ligne 3 et la ligne 4, sont les plus performantes. Donc on a ça d'avance sur les autres. Elles ont ça d'avance sur les autres. Et puis, tu sais, quand moi je vois des noms comme Lindsey Bloom un but en 11 matchs, c'est sûr qu'on peut penser, OK, c'est décevant, c'est plate. Mais moi, ce que je vois, c'est justement une adaptation qui se fait un peu plus lentement, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel offensif à débloquer. Puis si on va vraiment débloquer ce potentiel-là, on mélange ça avec la défense où tout le monde est capable de jouer un jeu two-way qui fonctionne, qui est cohérent, avec Anne-Renée Desbiens dans les buts qui met un 9-28, même si Chouli est un peu plus décevante, reste que le plus important, c'est la gardienne numéro 1. Puis en ce moment, elle se débrouille super bien, 9-28, puis comme tu as dit, à égalité dans la ligue pour les victoires. Tout ce qui reste à cette équipe-là, c'est d'aller débloquer ce petit potentiel-là. Donc, ils ont vraiment tout pour continuer dans leur lancée. C'est vraiment difficile, comme tu as dit, de prédire qui est-ce qui va finir premier. Tout pourrait changer. Puis, tu sais, c'est quand même aussi important de souligner, je pense, les blessures que l'équipe a en ce moment. Donc, Laura Stacey s'est blessée en début de saison. Ça fait un petit bout qu'elle n'a pas joué. Boullier, qui est revenu il n'y a pas longtemps. Donc, tu sais, est-ce qu'elle aussi, en revient de blessure, est-ce qu'on a encore son plein potentiel qui a été débloqué? Pas pour le moment. Elle a juste joué 6 matchs cette saison. Donc, tu sais, il reste beaucoup, 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 beaucoup de choses sur lesquelles être optimiste pour cette équipe-là. Puis c'est une équipe que, en ce moment, ils sont premiers. Donc, on pourrait se dire, hey, il n'y a rien à améliorer, tout est parfait. Mais, tu sais, même en étant première, il y a plein de choses qui pourraient encore aller mieux pour cette équipe-là. Donc, je suis quand même optimiste pour le restant de leur saison. Puis j'ai vraiment hâte de voir. Parce que, tu sais, aussi, cette équipe-là qui s'est fait battre en 3 matchs dans les séries l'année dernière, c'est une équipe que je pense que. Ces joueuses-là vont avoir vraiment faim en arrivant en série, puis je pense qu'on pourrait voir des séries qui sont vraiment beaucoup mieux que la saison dernière, puis on pourrait, tu sais, c'est une équipe qui a vraiment ce potentiel-là d'aller jusqu'au bout. Ça ne me surprendrait pas de voir une victoire de la victoire dans la ligue au complet à la fin de la saison, puis tu sais, ils continuent leur bonne lancée, là, 2 victoires en fin de semaine, dont tu sais, une contre le Frost, qui est justement l'équipe numéro 2, 4-2. C'était quand même une victoire très convaincante contre le Frost, donc tu sais, c'est encourageant à voir, puis je pense que cette équipe-là va aller très loin, là.
Sais, c'est pas, on peut pas faire trop de comparatifs avec la LNH, mais quand on parle de série, quand on parle de gagner des championnats, il faut une équipe avec 4 trios. Il faut une équipe avec 3 paires de défense. Puis là, ça va faire parfaitement le switch à la question qu'on a posée au début du podcast en lien avec le Canadien. Mais je veux dire, tu le dis, la Victoire, c'est peut-être une des équipes qui a le plus de répartition des points sur l'ensemble de l'équipe, ou en tout cas, une production qui se fait beaucoup plus étalée et non plus concentrée comme New York, mettons. Et juste ça, pour moi, ça me dit, tu sais, Claire Dalton, t'en as pas parlé, Anna Kelbin. Puis Anna Kelbin, c'est pas une offensive, là, mais en défensive, Kelbin, elle est très solide. C'est une vétéran, même si on l'a repêchée en 2024, c'est une vétéran de 30 ans. Tu sais, quand tu dis il manque des affaires, il va en manquer. Puis je pense que au fil du temps que la ligue se développe, que des équipes se rajoutent, on va être capable de voir de plus en plus des trous ou des endroits où est-ce que faut aller améliorer. Mais tu sais, pour l'instant, Montréal, si on regarde, je veux dire, en comparaison avec les autres équipes, Ils ont peut-être juste besoin du star power que Poulin et Stacey peuvent amener normalement. Mais moi, Youngblum, ce que j'aime, c'est sa physicalité. L'angle qu'elle amène, qui est semblable à, mettons, je dirais, Christine O'Neill, sauf que O'Neill, elle est 5 pieds 2, là. Tu sais, puis là,
Ouais.
je dis 5 pieds 2, j'ai pas regardé, mais dans le sens, c'est
Elle est
beaucoup plus
petite.
petite, c'est une petite Gallagher, alors que Youngblum, 5 pieds 9, si je crois bien, et 5 pieds 9 dans la ligue de la PWHL, c'est peut-être 6 pieds 2 là, dans la LNH. Donc, c'est une bonne taille, bien carrée. Elle a déjà joué contre des femmes depuis 2-3 saisons en Suède. Donc, j'aime ce que je vois et je pense que c'est une des équipes que s'il y a quelque chose qui se passe de mal ou s'il y a quelque chose, il y a des joueurs qui manquent ou qui arrêtent leur élan. Mais il y en a d'autres qui vont venir remplacer parce qu'il y a cette espèce de profondeur-là que les autres équipes ont peut-être pas totalement. Et même à la défense, là, il y a plusieurs options à faire.
Ouais, puis écoute, pour finir là-dessus, puis justement te laisser et nous lancer dans la prochaine question, tu sais, je voulais juste dire, ce qui est vraiment encourageant à Montréal aussi, c'est qu'il y a beaucoup des réponses aux problématiques qu'on pourrait avoir qui se retrouvent au sein de l'équipe. Donc, tu sais,
Ouais.
justement, on parle de, hey, il faut que les joueurs stars marquent plus. C'est pas dans une situation comme à Ottawa ou bien où cette joueuse-là, elle n'existe pas, elle n'est pas dans l'équipe pour le moment. On l'a, c'est juste que le début de saison est un tout petit peu plus lent. Donc, tu sais, les réponses à tous nos problèmes, à tous les problèmes de l'équipe sont vraiment au sein de l'équipe versus une équipe comme le Charge où la réponse à certains de leurs problèmes, c'est pas, elle n'est pas dans l'équipe en ce moment. Donc, tu sais, ils ont vraiment ça qui vont pour elle en ce moment. Et sur ça, je te laisserai parler de l'autre équipe de Montréal.
Ouais. Donc, en début de podcast, Renaud a demandé, ben, vous a demandé aux auditeurs si vous pensiez que le Canadien de Montréal était sur une lancée qui était un peu éphémère, qui était peut-être du temps emprunté et qui surperformait qu'est-ce que l'équipe sur papier et sur la glace peut amener, ou si c'était vraiment une vraie lancée. Et je pense que je vais le dire, là, pour la première fois, je pense que cette lancée-là, selon moi, d'un, est bénéfique pour l'équipe, mais de deux, elle est pas basée sur de l'air. Et ça, je vais commencer juste en disant que la plupart des matchs qu'on gagnait les dernières saisons, c'était un peu des matchs qu'on volait. C'était des matchs que, quand on regardait les buts attendus, on était surclassés. On était complètement pas dans le match, mais on finissait par gagner parce que, bon, à un moment donné, ça arrive qu'un gardien sorte un très bon match. Ça arrive que les joueurs de l'autre équipe ne soient pas capables de juste passer la défensive, mais créer énormément. Puis, juste pour ça, je vais y aller avec des statistiques un peu, qui vont dans le sens de ce que je dis là. Donc, premièrement, depuis le 17 décembre, le Canadien a un pourcentage de victoire de 0.6, ben, de 0.694. Donc, 70%, là, on va arrondir, des points qu'on doit gagner, on les gagne. Donc, 12 victoires, 3 défaites, une en prolongation. 59 buts pour, 41 buts contre. Ça, c'est le plus de buts pour depuis le 17 décembre. Et là, je vais prendre une pause tout de suite. Ça fait 16 matchs. Donc, cet échantillon-là est 16 matchs. Dans le monde statistique, on aime ça souvent avoir un échantillon de au moins 30 unités, donc 30 répondants, 30, peu importe. Et dans ce cas-là, ce serait 30 matchs. Mais je pense que 30 matchs, c'est quand même beaucoup sur une saison de 82, là. Donc, je trouve que sur 16 matchs, c'est quand même un signe de quelque chose qui se passe très bien. Je veux dire, on est troisième dans la ligue en termes de points, de pourcentage de points derrière Washington et Oilers. On est devant Ottawa, Toronto, Columbus et Tampa Bay, qui sont des équipes dans la course avec nous. Il y a aussi le fait qu'on est les troisièmes avec le plus de tirs de l'enclave et les troisièmes avec le plus de passes vers l'enclave qui sont complétées. Et ça, je pense qu'on peut vraiment dire que ça vient d'un certain Lane Hutson qui, lui, depuis le 1er janvier, a 1,33 points par match, ce qui est le meilleur défenseur dans la ligue. Et bon, j'ai dit que c'était pas basé sur du vent, mais moi, je pense que si Lane Hutson était pour se blesser, on aurait clairement un gros creux de vague parce que ce joueur-là amène énormément d'offensives. Est-ce que la défensive, c'est autant beau? On en reparlera plus tard avec Renaud, je suis pas mal sûr. Mais pour finir mon point, qui est que l'offensive du Canadien en ce moment, oui, elle est de la première ligne, deuxième ligne, mais aussi de la troisième et quatrième ligne, et on le voit dans les buts pour, on le voit dans la manière que l'équipe est capable de jouer. en défense et à l'attaque. Et donc, pour un Lane Hutson qui crée peut-être, je ne sais pas, 30-40 chances par match, je n'ai pas les stats devant moi, il va peut-être créer 20 mauvaises décisions, mais il y a toujours un surplus. Donc, on se ramasse avec une équipe qui est, contrairement au quart de siècle, une équipe plus basée sur la défensive et les gardiens de but. On se ramasse avec une équipe qui est offensive et qui fait mal à l'autre équipe en termes de but pour.
Ouais, ben écoute, tu as dit qu'on avait reparlé du côté offensif défensif de Lane Hutson. Honnêtement, c'était pas dans mes plans. Moi, écoute, ma réponse à cette question-là ressemble quand même beaucoup à la tienne. Je pense que, tu sais, pour considérer si cette lancée-là va continuer, puis comme j'ai dit au début, tu sais, oui, je pense qu'elle va continuer pour donner ma réponse. En bref, là, oui, elle va continuer. Boum, on finit le podcast là. Non, oui,
C'est bon,
elle va
merci.
continuer. Je pense qu'elle va continuer, mais tu sais, je pense que c'est important de prendre en compte que continuer, ça ne veut pas nécessairement dire finir la saison dans les top 5 équipes de la Ligue. Peut-être que ça va ralentir un peu, mais je pense qu'on va rester quand même une équipe qui, justement, surperforme ce que les gens pensaient d'eux. Puis, je pense que, justement, pour expliquer qu'est-ce qu'il veut. Pour vraiment répondre à cette question-là, il faut aussi prendre en compte de pourquoi est-ce que l'équipe allait mal au début. Puis oui, justement, on peut en attribuer peut-être un tout petit peu à justement Lane Hutson qui, offensivement, tout a bien marché, mais défensivement, est en train de faire des petits pas vers un jeu un peu meilleur. Puis tu sais, juste là, il y a une amélioration au début de la saison. Mais tu sais, il faut aussi prendre en compte les Alex Newhook au début de la saison, ça ne marchait pas du tout. Dak, ça ne marchait pas du tout.
Oublie
Puis là,
Dak.
maintenant, ça a commencé à cliquer. Puis je ne
Regarde
vois
ça.
pas.
Dak, t'en parles, là. Dak, c'est le sixième meilleur compteur depuis le 29 décembre.
Ben c'est ça. Et pourquoi? Est-ce que pour dire que les Canadiens rechuteraient puis recommenceraient à perdre des matchs comme au début de la saison, il faut prendre en compte que ces joueurs-là, justement, le niveau se rebaisserait. Je pense que un joueur qui a un mauvais début de saison, justement, t'sais, on l'a vu aussi avec des Jason Robertson à Dallas. À un moment donné, quand ça débloque, là, c'est très rare que des joueurs, t'sais, là, on ne parle pas d'un bon 2 semaines, on parle quand même d'un sample de 16 matchs qui a commencé,
Hey,
t'sais,
tu vas voir
ben.
cette semaine dans le pool. Tu vas voir cette semaine dans le pool que Robertson et Wyatt Johnson sont back.
Oui, ça, on n'en parlera pas là, de notre poule. Ça fait un peu pitié pour moi. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est vraiment sur ce genre de truc-là que moi, je base mon opinion. Aussi, tu sais, là, faut regarder globalement. Tu sais, qu'est-ce que c'est. Si, admettons, l'équipe continue à performer puis fait les séries cette saison, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canadien? Puis je pense que c'est vraiment encourageant, déjà de un, parce que moi, ce que je voyais vraiment comme différence quand on regardait les Canadiens jouer contre les grosses équipes quand on se faisait planter les saisons dernières, c'était OK, il faut que tu ailles une ligne, que ta première ligne, elle arrive sur la glace, puis que les autres équipes aient vraiment de la misère à avoir une réponse pour. Donc, tu sais, quand on regarde l'équipe de Tampa Bay qui a gagné la Coupe, quand tu mettais Stamkos et Kucherov sur la glace, c'est tellement difficile pour les autres équipes de savoir quoi faire. Quand on regarde Floride l'année dernière, c'est. Pas Toronto, excusez Toronto. Mais Colorado. Je me suis mélangé avec les O, mais oui, Colorado aussi, c'est leur ligne avec MacKinnon, Ratanen. C'était vraiment difficile de trouver une réponse pour ça. Puis je dis pas qu'en ce moment, la ligne du Canadien, c'est le même calibre que ça. Mais quand on voit Caulfield, Slavkovski et Suzuki sur la glace, je les compare pas à ces lignes-là, mais reste que c'est des équipes, une ligne où chaque gars connaît son rôle et se spécialise dans quelque chose, puis est vraiment capable de justement enlever les réponses à l'autre équipe. Donc, tu sais, on voit Slavkovski qui rentre dans la zone, qui attire toute l'attention sur lui, qui fait une passe à Caulfield, qui sait exactement où se placer, qui est capable de justement, sans être physiquement le joueur le plus imposant, pousser son adversaire pour se créer de l'espace. C'est ça, je veux dire, c'est vraiment une ligne qui est capable d'arriver sur la glace puis de dominer même les meilleures paires défensives des autres équipes. Puis ça, il faut ça. Puis, si je voulais amener le point, c'est comme. Là, en ce moment, là, si vous regardez le podcast Processus, au début de la saison, quand ça allait pas bien, il y avait Snake qui disait c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait partie du procès. Puis j'étais 100% d'accord. Sauf qu'en ce moment, faut quand même prendre en compte que à Montréal, on a le meilleur genre de sortie de rebuild. Dans le sens, si cette lancée-là continue, cette saison, admettons, on va en série puis on perd en première ronde, c'est pas la fin du monde parce que ça veut dire que tu t'es sorti d'un rebuild de façon organique. On n'est pas allé chercher un Claude Giroux à la deadline, qui nous amène en première ronde, mais que, tu sais, finalement, le gars a 31 ans puis fait pas partie.
T'as échangé un prospect. T'as échangé un prospect ou t'as échangé un pic, là.
Non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est pas. Le scoring vient tout des joueurs que les Canadiens soit ont repêché, soit sont allés chercher, soit ont redéveloppé. Donc, comme des Newhook, comme des Dak. Et puis, tu sais, notre première ligne, c'est juste des gars qui ont. T'sais, Suzuki a été repêché par une autre équipe, mais c'est qui l'a développé réellement? C'est certainement pas Vegas. C'est tous des
Non.
produits de Montréal. Et c'est ça qui est vraiment le plus excitant. Puis, faut prendre en compte aussi, regarder qu'est-ce qui arrive. On a Rainmaker qui est supposé être une pièce clé, qui, tu sais, je dis pas qu'il va faire une arrivée explosive, mais tu sais, qui pourrait résoudre certains des problèmes de cette équipe-là au courant. Tu sais, surtout s'il arrive à jouer d'ici la fin de la saison, là, ça serait vraiment incroyable de le voir la saison prochaine avec déjà un petit élan. Puis, comment est-ce qu'on peut pas. Tu sais, imaginez le top 6 des Canadiens, regardez les statistiques avancées, regardez comment est-ce que tout marche bien, puis après ça, ajouter Ivan Demidov là-dedans à la place d'un Alex Newhook. Tu sais, je pense qu'on commence à quand même avoir l'air d'un top 6 qui pourrait justement faire quelque chose de plus que aller en première ronde et perdre. Puis, tu sais, je sais que c'est un peu désolant pour certains fans de penser que, hey, on pourrait juste aller en première ronde et perdre. Mais en ce moment, on a une équipe qui n'a vraiment pas beaucoup d'expérience de playoff. Puis des fois, justement, tu sais, la petite expérience d'aller en première ronde, jouer 5-6 matchs, puis se faire battre, ou bien, tu sais, peut-être à l'opposé, réussir à surprendre une des autres équipes. Tu sais, si on pouvait arriver en wild card, avoir des matchs contre Toronto, puis encore une fois, les sortir en première ronde, ça serait quand même incroyable. On croise les doigts. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est de la bonne expérience, perdre ou gagner. Avoir cette expérience de match, de jeu de playoff, c'est de l'expérience qui va faire vraiment du bien à tous les joueurs de cette équipe-là. Et puis, c'est tout ça pour conclure sur le fait que ce qui est le plus encourageant pour moi chez le Canadien, c'est que si cette lancée-là continue, puis que les Canadiens font les séries, puis qu'on bâtit sur une base gagnante, ce qui est le plus encourageant, c'est justement ce mot-là, c'est organique. Tout a été fait organiquement. La fin du rebuild est venue des joueurs et pas de Kent Hughes qui décide que lui, cette année, c'est fini, donc tout se passe.
Puis clairement aussi, ça vient de Jeff Molson, je veux dire. Tu sais, il y a beaucoup d'échanges qu'on sait pas, mais ça vient du propriétaire qui dit non, non, là, moi, je veux gagner maintenant. Ou, hey, non, non, là, tu sais, Islanders, là, c'est pas mal ça, qui sont, à chaque fois, c'est Lamoriello qui, ben, lui, c'est le directeur général, mais qui, tu sais, qui voit un peu sa vie et sa carrière finir et qui est comme, non, non, moi, il faut que je gagne maintenant. Donc, je vais hypothéquer tout le futur pour aller me gagner maintenant et aller me chercher des joueurs qui me font gagner maintenant, au lieu de faire, comme tu dis, un peu à laisser la vie faire bien les choses là, et créer. Bon, le mot culture, on en parle depuis longtemps, mais là, je pense qu'enfin, on voit quelque chose qui est de la culture. Je ne me rappelle plus c'est quoi exactement le match où est-ce que David Savard a crié à la fin de la première période, quand on avait eu un deuxième but en désavantage numérique, dans la première période, et que Martin St-Louis, à la fin du match, il dit, ben, j'ai rien eu à dire. Puis en fait, c'est que l'équipe, les joueurs ensemble se sont parlé et on peut le voir juste avec le style de jeu de Patrick Laine. Je veux dire, Patrick Laine, je ne suis pas celui qui a regardé le plus jouer Patrick Laine, mais de ce que je sais et de ce que j'ai vu au début de la saison, avec ben, le début de sa saison avec nous, c'est un joueur pas mal unilatéral, là. Et là, de plus en plus, on le voit transporter la rondelle, on le voit faire des jeux défensifs, on le voit frapper, on le voit s'impliquer beaucoup plus que juste marquer des buts. Et je pense que, bon, Martin St-Louis l'a souvent dit, que si tu ne fais pas quelques bases, tu ne vas pas être dans l'équipe, ben. Là, on dirait que les joueurs ont même pas besoin de se faire chicaner pour rentrer dans ce moule-là. Là, tu l'as dit, il y a eu Lainé, mais il y a eu Carrier aussi. Il y a eu Dak qui, là, tranquillement, il revient de sa blessure et on dirait que ça devient un joueur de plus en plus qui retourne à qu'est-ce qui était autant prometteur en début de la saison passée. Bon, il y a aussi Daubech, je veux dire. On le dit depuis longtemps que Daubech est un très bon gardien, il ne faut pas l'écarter, mais je pense pas qu'on s'attendait à un début de carrière. 5 victoires, 0 défaites, 1,5 buts contre par match et un safe un pourcentage d'arrêt de 9,41. Tu sais, Primo, lui, c'était vraiment, là, vraiment, vraiment atroce comme statistique. On avait un gardien de but en Montembeau qui était épuisé avant la pause des fêtes. Et c'est ça, il y a quelque chose qui se crée. Puis moi, tu sais, vous le savez, là, on est tous pour les prospects. Je veux dire, c'est ça qu'on regarde à chaque année. On regarde les prospects, puis c'est bien plus facile de fantasmer sur la nouvelle perle qui pop-up, le Michael Mezza, James Higgins, Matthew Schaefer. Puis tu sais, on s'en parlait au début du podcast de la saison. On disait, ça serait incroyable. Ça serait finir le rebuild d'une manière fantastique. Aller chercher un Schaefer, un Higgins, un Mezza, ça serait comme le, tu sais, clore ce rebuild-là avec 5-6 gros joueurs qu'on a repêchés. Mais là, je veux dire, à un moment donné, je ne peux pas aller à l'encontre de qu'est-ce que l'équipe montre. Puis, je suis, tu sais, Buffalo, là, une de leurs grandes erreurs, ça a toujours été d'échanger leurs vétérans parce qu'ils n'étaient pas en mode série. Donc, ils échangent leurs vétérans ou leurs vétérans veulent partir parce que l'équipe ne va jamais se rendre nulle part. Donc, ils échangent. Et là, ce que ça fait, ben, c'est qu'à chaque fois, tu te ramasses avec une équipe qui n'a pas vraiment de noyau, qui n'a pas vraiment T'sais, on parle de Dvorak, puis clairement, il revient pas l'année prochaine. Je pense que même s'il faisait 100 points jusqu'à la fin de la saison, il revient pas l'année prochaine. Mais Dvorak est juste un vétéran que Kent Hughes a jugé qui était nécessaire à l'équipe et qu'il fallait pas juste s'en débarrasser et mal le
Puis,
traiter comme New York font avec certains de leurs
sans
vétérans.
Dvorak, le match contre New York, les Canadiens ne l'auraient peut-être pas gagné.
Non,
Là,
hein,
t'sais,
non,
c'est
c'est
un
ça.
joueur qu'on peut, on peut le bâcher jusqu'à un certain extent, mais t'sais, son vrai problème, c'est juste qu'il est beige. Là. Il n'y a rien de comme particulièrement spécial chez lui, mais dans un match contre New York, justement, un joueur beige, mais qui connaît super bien son rôle, on a vu à quel point c'était utile. Là.
Ouais. Juste dire allô à Nick
Salut
qui est présent
Nicolas.
avec nous. Salut Nicolas.
Mais écoute, on
Donc
peut.
c'est ça, ben en tout cas, moi j'ai rien à rajouter. Je pense qu'on va
Ben.
laisser le reste de la saison se passer. Puis tu l'as dit, Demidov, je veux dire, avec encore un
Ben.
but incroyable aujourd'hui. Ça va être quoi cette équipe-là? Puis même on parle pas des échanges, on parle pas des signatures d'agents libres. Donc il y a quelque chose qui se passe à Montréal, puis I'm all for it.
Ouais, 100%. Puis écoute, on s'en reparle aussi plus proche de la date des échanges, après la date des échanges. C'est pas le dernier épisode où est-ce qu'on va parler des
Non.
Canadiens. Puis, tu sais, je voulais quand même aussi amener quand même un petit peu. Il fallait que je fasse quand même un tout petit peu mon buzzkill pour la fin du segment. Je voulais
Ah
quand
oui,
même
vas-y.
parler un tout petit peu des problèmes du Canadien. Mais ce que je trouve qui est positif, trouver le positif même dans le négatif, c'est que ces problèmes-là, la solution, elle n'est pas désastreuse. Donc, tu sais, on parle des problèmes un petit peu d'habitude. Des fois, il y a des matchs où quand les Canadiens gagnent, ou bien gagnent, ou bien c'est plus serré, on voit des matchs justement. Des erreurs d'équipe qui est justement pas habituée à être dans ces situations-là, qui est pas encore, tu sais, vraiment beaucoup des erreurs
Je suis d'accord.
d'expérience. Donc, par exemple, tu sais, si vous avez écouté, là, je parle vraiment audio aussi, le match contre les Rangers, le nombre de fois où Oud a parlé de à quel point est-ce que tu peux laisser Kreider devant le but. Écoute, c'est tellement simple à faire comme analyse, mais c'est 100% vrai, tu sais, surtout, je pense, c'est le deux ou troisième but des Rangers. En tant qu'équipe qui se prend au sérieux, qui se dit, OK, je veux aller loin pour les séries, je veux faire un push pour les séries, c'est pas acceptable de laisser le devant de ton gardien de but autant libre. Là, je dis pas c'est pas acceptable dans le sens où le gars qui a fait cette erreur-là,
Il
sortez-le.
devrait être
C'est juste que
benché.
justement, c'est de l'expérience à prendre, puis ça va être vraiment important. Puis c'est ce petit côté-là qui manque à la défense du Canadien. Puis, écoutez, le même thème aussi qu'au World Junior, les maudites pénalités. Tu peux pas penser à être une des meilleures équipes de la Ligue en étant aussi les meneurs en minutes de pénalité. Il n'y a pas de bonne pénalité. Certes, des fois,
Il y
tu
en a
sais,
peut-être une. Il y en a peut-être une sur 10,
ben
puis
c'est
même
ça.
là.
Puis, tu sais, c'est sûr que c'est satisfaisant de, des fois, tu sais, avoir des pénalités qui pénalise pas l'équipe. Donc, tu sais, quand on voit Herbert Jacquet se battre contre Matt Rempe, OK, c'est bon, aucun problème avec ça. Mais après ça, tu sais, je me souviens plus c'est quoi le nom de cette pénalité, mais Josh Anderson qui vient double-check, je pense que c'est ça.
Ouais, le cross-check, là.
Cross-check dans le dos du joueur des Rangers, c'est complètement ridicule. Puis c'est des erreurs de jugement comme ça qui rendent la game tellement plus difficile pour l'équipe, là, tu sais. Beaucoup plus difficile en termes de comme c'est plus difficile de jouer en piqué, mais tu sais, je pense que j'ai dit exactement la même phrase quand on parlait de Team Canada au World Junior, là. Mais constamment avoir une équipe qui doit jouer à 5 contre 4, c'est épuisant, puis ça fait que les fins de match, c'est comme si les Canadiens avaient joué, tu sais, je sais pas c'est quoi la représentation, mais tu sais, une demi-période de plus que l'autre équipe, fait que tu sais, ça aussi, ça nuit énormément. Puis pour finir, ça, je veux pas qu'on y réponde en ce moment, je voulais juste mettre ça dans l'univers, puis Nicolas, écoute. Il en a parlé aussi. Faut pas oublier qu'on a encore le choix de Calgary. Moi, je suis juste curieux en ce moment de voir justement si les joueurs et les performances de l'équipe vont forcer la main des Canadiens, voir qu'est-ce qui va se passer avec notre premier choix et le premier choix de Calgary. Les joueurs comme Joshua Roy, comme Logan Mailloux qui sont à Laval, que justement, on ne voit pas nécessairement rentrer dans le line-up du Canadien bientôt. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Kent Hughes va mijoter avec tout ça. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à monter au repêchage? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à justement aller chercher un joueur, pas nécessairement un vétéran, mais un joueur un petit peu plus âgé avec un petit peu plus d'expérience au repêchage ou bien après le repêchage? Je pense pas que ça va être à la deadline cette année, là, mais tu sais, je pense que justement,
Non,
un
j'espère
des
pas. C'est
deux.
ça que j'allais dire.
Ben, c'est ça.
J'espère pas qu'au deadline, à moins que ça soit genre, puis là, je lance un nom dans l'univers, mais un joueur 23 ans,
Mais c'est
24
ça.
ans,
Mais ça, c'est pas la
tu
même
sais,
chose, là.
qui. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je pense que ces choix-là, j'espère en tout cas qu'on les
Ouais.
garde jusqu'au repêchage. Soit on avance, soit on va chercher un gars à la Kirby Dach, mais en 2024, 25.
Oui, ou bien, tu sais, aussi, à la fin de la journée, il n'y a rien qui empêcherait de justement faire quelque chose avec un de ces choix-là pour après ça, tu sais, je te disais, parce que ça, moi et Jules, on s'en est parlé juste avant, mais tu sais, si les Canadiens ont une liste de joueurs, puis finalement, eux, croient vraiment au potentiel de Justin Carbonneau, puis qu'ils arrivent au choix de Calgary dans les alentours de 20, puis qu'ils disent, hey, on a potentiellement une future star qui est disponible là. Si j'aurais rien contre le fait de bouger le premier choix, puis après ça aller repêcher avec ça, mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait un plan. Je pense pas que en tant qu'équipe, ils avanceraient à aller prendre, admettons, un Jake O'Brien avec le choix numéro 15, puis après ça, un autre
Non,
joueur de ce genre-là avec le choix numéro 18. Puis c'est pour rien enlever à ces joueurs-là. J'aime bien Jake O'Brien, c'est juste que c'est pas ça que Montréal a besoin en ce moment. Soit c'était une
on sait
grosse
pas c'est
star.
quoi leur ouais. On
Ben, c'est
sait pas c'est
ça.
quoi leur évaluation là, mais dans le sens que je suis quand même d'accord avec toi de si on est pour repêcher, il faut que ce soit un joueur que t'évalues qui va venir avoir un impact parce que tu sais on parle beaucoup de Demidov, de Rienbacher, de Fowler. Faut pas que, faut, t'sais, j'avoue que c'est quand même trois joueurs à trois positions différentes qui peuvent venir avoir un impact dans, t'sais, de premier trio, première paire, premier goaler, mais la profondeur va commencer à s'effriter en termes de prospects. Et un moment donné, si on fait pas de grosses acquisitions en échange aux agents libres, un moment donné, il va falloir qu'on revienne dans nos échanges, dans nos repêchages. Et donc, moi, je jetterai pas ces choix-là.
Non, 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 c'est ça.
Mais
On les jettera
comme je
pas,
te dis, c'est
moi.
ça serait cool. Un Desnoyers, un Carbonneau, là, un petit Québécois en première ronde là, de ce talent-là, là, je
C'est
dirais
ça, puis
vraiment pas
écoute,
non, là.
pour finir sur ça, je pense que Nicolas est pas mal d'accord avec nous. Je veux pas qu'on échange nos choix avant le repêchage. Moi aussi, je pense que les Canadiens sont vraiment dans une situation un peu de luxe d'arriver au repêchage, de dire on a des gars sur notre liste, on voit un peu ce qu'on peut faire, puis finalement, si ça marche pas, t'sais, trouver une autre solution, il n'y a pas de presse, là. C'est pour ça que t'sais, je disais qu'on n'aura pas de réponse. En ce moment, tout ce qu'on lance, c'est des hypothétiques. On verra, t'sais, déjà, prochaine étape, où l'équipe en est après la date limite des échanges, parce que ça aussi, tu sais, il pourrait. Kent Hughes, en ce moment, là, juste par rapport à cette saison, avant le repêchage, a plein d'options sur la table. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va décider de faire. Donc, sur ce, bon restant de match aussi des Canadiens en ce moment. Puis on a vraiment hâte de voir le restant de la saison. Là.
C'est excitant, je veux dire, moi j'entends de partout les gens qui regardent le hockey, qui sont excités, qui aiment les joueurs. Bon, c'est sûr que je leur dis, OK, vous êtes impressionnés par Hotsun, là? On va voir l'année prochaine quand vous allez me parler d'Ivan. Donc, sur ce, bonne soirée, on se voit la semaine prochaine.
Je voulais dire aussi,
Ah, vas-y, vas-y,
samedi,
excuse-moi.
11 h, sur la chaîne de Dans le Mille, Edward
Oui.
Bundar, on est de retour avec les analyses. J'ai dit dans l'analyse, on
Bandard.
essaye d'en sortir une par semaine maintenant. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de son mieux. Rien de
Ouais,
promis,
c'est
mais
ça.
si c'est pas une par semaine, ça va être une ou 2 semaines. Donc, 11 h, ne ratez pas ça. Edward Bundar, je sais qu'il est un
Ouais.
petit peu moins connu. Donc, si vous le connaissez pas, on se retrouve pour un petit rendez-vous de 20 minutes. Je vous explique exactement quel type de joueur c'est. Comme d'habitude, merci Nicolas d'avoir commenté. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Puis on se dit à mardi prochain. Ou à samedi en fait, si vous m'aimez
À
beaucoup.
samedi, puis à mardi après. Puis à dimanche, en fait.
Exactement. Bonne soirée tout le
On
monde.
se voit tout le temps.